marche sans te retourner. Ne laisse pas ton cœur douter, ne laisse pas ta joie s'altérer. Regarde à Jésus, vois sa main qui se tend.
Je vous invite à lire dans vos Bibles Jean chapitre 8. Alors, nous avons un frère parmi nous qui nous vient de Saint-Rémy, c'est ça? Saint-Rémy, je ne me rappelle jamais le nom. Saint-Rémy-sur-Arve, c'est ça? Et vous êtes le frère?
Gérard Dupal.
Voilà, Gérard Dupal. Voilà, et il connaît notre frère Gérard Grillet.
Ah.
Alors vous voyez, c'est pas rien, hein, Gérard. Et on est content, on va bientôt voir Gérard, parce qu'il va aussi venir pour la venue de Pierre Gilbert. J'espère que vous viendrez aussi, que vous serez avec nous, ça va être des moments formidables. Et on est très content de vous recevoir, Dieu vous bénisse au milieu de nous. Merci mon frère d'être venu. Jean chapitre 8, verset 30 et... à 32. J'y suis. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Amen.
Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs.
On est toujours esclaves de ce qui triomphe de nous. Et dans la Bible, dans ce que Jésus dit, dans ce que les prophètes disent dans la Bible, dans ce que Dieu dit dans la Bible, eh bien, dans toutes ces choses-là, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour être libres, pour trouver la liberté. Mais nous ne sommes pas capables naturellement de trouver ce qu'il nous faut dans la Bible. Il faut apprendre à apprendre. Beaucoup de gens disent qu'il faut que le Saint-Esprit nous éclaire. C'est vrai. Mais avant que le Saint-Esprit nous éclaire, il faut déjà d'abord aussi faire soi-même personnellement un effort. Apprendre à apprendre. Nous pouvons comprendre les mots qui sont écrits là dans la Bible. Nous pouvons les comprendre. Mais ce qui nous manque, c'est un équilibre. Si nous n'avons pas... un équilibre, eh bien, les mots qui sont écrits là, ça reste des paroles mortes, ça reste sans efficacité, sans vie. Tout dans la création, mes frères et sœurs, tout a un vis-à-vis. Par exemple, je suis votre vis-à-vis en ce moment. Vis-à-vis du plancher, il y a le plafond. Vis-à-vis du passé, il y a le futur, le présent. Il y a toujours un vis-à-vis. Ce que l'enseignement de Jésus donne... quand nous écoutons ce qu'il dit, quand nous lisons ce qu'il dit, quand nous écoutons les prédications, quand nous lisons des livres qui sont inspirés, eh bien, ce que Jésus nous donne, c'est des idées, c'est des croyances, c'est des pensées. Par exemple, quand vous lisez que Jésus dit, « Toutes choses sont possibles à celui qui croit. C'est une pensée qui entre en vous. Ah, toute chose est possible si je crois. Oh. Ensuite, vous allez lire, demandez et vous recevrez. Ça crée une nouvelle façon de penser. C'est une pensée qui entre en vous. Ensuite, vous pouvez lire aussi, crois que ce que tu dis arrive et tu le verras s'accomplir. Hein, Jésus dit, si tu dis à la montagne, jette-toi de là à là, elle le fera. Si tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Donc, il crée en nous des pensées. Il y a un enseignement qui forme en nous des pensées nouvelles. Mais le problème, c'est pourquoi elles ne bougent pas, ces montagnes? Pourquoi elles ne bougent pas? Ça, c'est le grand problème. Pourtant, Jésus dit qu'elles vont bouger. Qu'est-ce qui se passe alors? Ça crée, les paroles de Jésus créent des nouvelles pensées qui créent la foi, mais il faut trouver notre point d'équilibre. Sinon, les phrases de Jésus, si belles soient-elles, si encourageantes soient-elles, si motivées soient-elles, eh bien, elles restent lettres mortes pour vous. Pourtant, vous croyez et rien n'est possible. Alors que Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Oh, on est confus. Alors on se fait des doctrines pour se trouver des excuses. Vous demandez, vous ne recevez pas. Alors pourquoi? Vous parlez avec autorité au nom de Jésus, rien ne se passe, rien n'arrive. Alors pourquoi? Pourquoi ces montagnes ne bougent pas? Pourquoi ces démons qui m'embêtent autour de moi ne sont pas liés et chassés comme je leur dis de l'être au nom de Jésus? Pourquoi il ne vous arrive que des choses possibles et non pas c'est-à-dire des choses qui arrivent à tout le monde et non pas des choses qui dépassent le possible? Des choses extraordinaires, pourquoi vous arrive-t-il que des choses ordinaires? Il arrive des fois des malheurs ordinaires et on dit c'est le diable qui m'attaque. Pas forcément, c'est des impondérables, c'est des choses de la vie. Il arrive aussi des bonnes choses, ce n'est pas forcément des bénédictions, c'est des impondérables, c'est les lois de la vie, c'est normal. Ce que Jésus veut, c'est qu'il vous arrive des choses extraordinaires, surnaturelles, différentes de ce que le monsieur et madame tout le monde peut avoir. Et c'est parce que vous avez une information, d'abord ça commence par une information, qu'ensuite vous pouvez construire. L'information, elle se trouve d'un côté. Mais il vous faut faire un travail d'après l'information et ce travail se trouve de l'autre côté. En fait, c'est comme sur une balance. Vous posez l'information d'un côté, mais il faut que de l'autre côté de la balance, il y ait quelque chose. Il faut quoi de l'autre côté de la balance? Souvenez-vous, tout dans la création a son vis-à-vis. Dieu a créé ça comme ça. Tout dans la création a son vis-à-vis. Le haut, le bas, la gauche, la droite, toutes ces choses. Alors, ce que la Bible vous donne, ce que les prédications vous donnent, c'est de l'intelligence. Ça, c'est sur un côté de la balance. C'est de l'intelligence, c'est de la sagesse, c'est un savoir, c'est des informations, ce sont des lois, ce sont des promesses, ce sont des objectifs élevés. Mais tout ça, ça demeure sur un côté de la balance. Comme sur le plateau d'une balance. Mais pour que ça devienne vivant, pour que ça devienne réel dans votre vie, dans votre environnement, eh bien, il faut que quelque chose soit placé de l'autre côté de la balance. Lire la parole de Dieu, c'est investir du bon dans votre être intérieur. C'est un côté de la balance. Lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, écouter les prédications, réécouter encore et encore les prédications, c'est mettre quelque chose en vous, dans votre être intérieur, c'est mettre de bonnes choses dans votre trésor, c'est mettre du solide, c'est mettre des pensées élevées, c'est mettre des règles justes, c'est mettre des promesses époustouflantes, tout est possible, c'est quand même époustouflant. Et vous aimez ces choses, vous aimez cela. Alors, il faut comprendre que maintenant, il y a ce côté, mais il va falloir déposer des choses sur l'autre plateau de la balance, le vis-à-vis qui est le vis-à-vis de votre être intérieur, c'est-à-dire ce qui est extérieur à vous. Jésus et la parole de Dieu, ça met quelque chose en vous, mais maintenant il faut que vous mettiez quelque chose à l'extérieur de vous. Ces choses à placer de l'autre côté de la balance, c'est-à-dire à l'extérieur de vous, ce sont des actes, ce sont des techniques, ce sont des stratégies, ce sont des étapes, ce sont des plans. Les choses que vous posez de ce côté de la balance, ce sont des actions physiques, c'est ce que vous faites. Ce sont des actions qui sortent de vous. De vous où de bonnes choses ont été mises, qui fortifient votre foi, qui vous donnent de l'intelligence spirituelle. Mais maintenant que vous avez ça en vous, il faut que ça sorte de vous sous forme d'action, de comportement, de stratégie, de plan, de technique. Par exemple, je parlais tout à l'heure avec notre frère Gérard de ma conversion. Le premier soir, quand je me suis converti, il y avait Raphaël qui était là, il a prié pour les malades, et j'ai vu des malades guéris, beaucoup. Des paralytiques, des aveugles, c'est extraordinaire. J'ai cru ça. J'ai cru donc que Jésus était toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement, mais c'est que le troisième soir, après m'être converti, que j'ai posé une action de l'autre côté de la balance. Le premier soir, j'ai appris que c'était possible, et le troisième soir, j'ai posé une action. D'un côté, j'avais la parole de Jésus, la Bible, qui dit que Jésus a porté nos péchés et nos maladies sur la croix. De l'autre côté, sur ce même côté, j'avais aussi Raphaël, qui n'avait pas fait seulement que de prêcher, mais qui avait démontré la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ, guérissant les malades. Tout ça, c'était à l'intérieur de moi. J'avais acquis quelque chose à l'intérieur de moi, une connaissance, une sagesse, un savoir. J'avais une information par la Bible, une information par la démonstration de puissance du ministère de notre frère Raphaël. Tout ça, c'était entré en moi. J'avais ça à l'intérieur, mais ça n'avait aucune utilité. Ça touchait mes émotions, c'était joli, je pouvais en parler, c'était magnifique, mais il n'y avait rien de l'autre côté dans la balance. C'est-à-dire, j'avais acquis une connaissance intérieure, mais j'avais jamais fait d'action extérieure avec cette connaissance. C'était en moi, mais il fallait qu'il y ait un vis-à-vis, quelque chose en dehors de moi, quelque chose à l'extérieur de moi. Et c'est que le troisième soir, quand j'ai fait ce qu'il fallait, quand j'ai produit une action extérieure, quand j'ai fait ce que Jésus dit, quand j'ai fait ce que Raphaël enseignait, c'est-à-dire quand j'ai mis mes mains sur ce paralytique parkinsonien, que l'impossible est devenu possible, que la pensée qui était semée en moi, que la parole de Dieu qui était en moi est devenue une réalité, quelque chose de palpable, quelque chose de visible, quelque chose de concret, quelque chose de possible. Et ce principe-là, il marche pour tout. Il y a le côté intérieur et le côté extérieur. Il y a la pensée, l'instruction, la connaissance, le savoir, et il y a l'action. S'il n'y a pas l'action, toute cette connaissance, ça vous fait gonfler, puis c'est tout. Ça marche pour le surnaturel, ça marche pour le naturel, ça marche toujours, il y a les deux côtés de la balance, il y a l'équilibre, c'est l'équilibre entre le monde intérieur de la pensée, du savoir, et le monde de l'action, le monde dans la réalité visible, l'équilibre. Il y a 15 jours, je projetais avec Stéphane d'aller en Suisse, et j'ai pensé téléphoner à mon frère pour lui dire que j'aimerais bien passer une soirée avec lui pour manger de la saucisse au chou et du papé vaudois. Vous savez pas ce que c'est, hein? C'est très bon. C'est suisse. C'était une pensée en moi. C'était ma pensée. Par contre, prendre le téléphone, faire le numéro, ça c'était le produit de ma pensée, hein? Et c'était une démarche physique réelle. Quand Alain Mesme a décidé, a pensé à aller au Burkina, c'était à l'intérieur de lui, c'était sur ce côté de la balance, c'était à l'intérieur de lui. Est-ce que ça a suffi pour qu'il se trouve en Afrique? Non. Il a fallu agir, aller acheter un billet d'avion, aller faire son visa, fixer des dates et toutes ces choses-là, fixer les dates avant, il vaut mieux, hein. Et aujourd'hui, il est en Afrique, pas seulement parce qu'il a une pensée, pas seulement parce qu'il a une croyance, tiens, je crois que je vais aller en Afrique, non, parce qu'il a ajouté une action. Mes frères et sœurs, pour que vous ayez des réalisations effectives, il faut les deux côtés de la balance en équilibre. Quoi que ce soit que vous voulez, vous pouvez l'avoir, Jésus dit. Quoi que ce soit que vous demandiez, une chose quelconque que vous demandez, vous l'aurez. Parce que tout est possible à celui qui croit. La croyance, les pensées, les émotions qui vont avec, tout ça c'est une partie nécessaire, mais ce n'est pas la partie entière. Croyez, tout est possible à celui qui croit, ça c'est absolument vrai. Mais il y a un secret, et le secret il se trouve quelques pages plus loin dans la Bible. Voilà pourquoi il faut étudier la Bible, pas seulement un verset sorti de son contexte. Il y a un secret. Et le secret se trouve quelques pages plus loin dans la Bible. C'est la foi, c'est-à-dire la croyance qui est morte sans action. C'est-à-dire que toute l'information, tout le savoir que Jésus te donne, c'est mort, ça ne sert à rien si tu n'ajoutes pas une action dessus. Toute la parole de Dieu qui se trouve dans ta Bible, c'est mort, c'est inutile si tu ne la rends pas vivante par une action. Dieu, on sait qu'il est tout. Dieu, on sait qu'il a tout. Et il veut que vous soyez comme il est lui, c'est-à-dire il veut que vous soyez beau, parfait, bon, puissant, rempli d'amour, juste, etc., comme il est. Mais il veut aussi que vous ayez tout ce qu'il a. À moi sont l'or, l'argent, la puissance, à moi sont toutes les choses, tout m'appartient, d'accord ? Et il veut que vous ayez vous aussi, parce qu'il vous aime, c'est sa volonté, c'est ce qu'il veut. Il vous a mis sur cette terre pour que sur cette terre, ça soit pour vous comme pour lui au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Il veut ça pour vous. Alors, il vous en informe. Il nous le dit. Il nous l'enseigne par la Bible, par les prédications, par des bouquins qui sont plus ou moins inspirés. Il nous informe afin qu'on le sache, qu'on l'apprenne, que ça soit dans nos pensées. L'or et l'argent m'appartiennent. La santé est à moi. Dieu n'est jamais malade. Il n'y a pas de malade au ciel. Amen. Donc, toutes ces choses, c'est des exemples. Et il veut la même chose pour vous parce qu'il a de l'amour pour vous. Maintenant, il faut que vous sachiez que vous êtes son vis-à-vis. Il est votre vis-à-vis. Tout est ainsi. Dieu a créé tout pour avoir un vis-à-vis. Et vous, il vous a créé vous pour que vous ayez aussi un vis-à-vis, quelque chose en face de vous. Le vis-à-vis de vos pensées, ce sont vos actions. Il faut que vous receviez cet enseignement-là. Le vis-à-vis de mes pensées, ce sont mes actions. Si vous ne posez pas quelque chose en face de vos actions, en face de vos pensées, eh bien, ça reste juste des pensées très mignonnes, très jolies, mais parfaitement inutiles dans ce monde de brut, dans ce monde démoniaque, dans ce monde ténèbres. Il faut que vous posiez des actions d'amour, des actions de paix, des actions... Vous voyez ce que je veux dire, mes frères et sœurs, vous comprenez? Vos actions démontrent ce qu'il y a en vous. Elles seront vos vis-à-vis. Les résultats de vos actions sont la matérialisation de ce qui est en vous. C'est-à-dire de vos pensées, de votre savoir, de vos croyances. Alors, c'est nécessaire d'apprendre. Mais après, il faut aller faire. Il doit y avoir un équilibre entre vos pensées et vos actions. Il doit y avoir un équilibre entre ce que vous apprenez de Dieu, de la Bible, des prédications, et de la vie courante, et de vos techniques. Ah bon, il y a des techniques. Mais bien sûr qu'il y a des techniques. Il y a des techniques. Pour en revenir à la guérison miracle, par exemple, il y a des techniques. Dieu nous en donne dans la Bible. Il y a la prière, le jeûne. Il y a la prise d'autorité. Ça, c'est une technique. Il y a les gestes de foi, qui sont encore d'autres techniques. Un jour, une dame est venue me dire, Michel, il faut que... J'étais à Ouagadougou, chez Alain Williermeau, son papa. Et une dame vient me dire, frère Michel, il faut que je vous paye le billet d'avion, il faut que vous retourniez à Paris pour prier pour un ami qui est en train de se mourir du cancer. Il en a pour 70 heures, 72 heures. Et sa fille prend l'avion ce soir, elle part là-bas à Paris pour voir son papa une dernière fois, et je veux que vous alliez avec elle pour prier pour lui. Je dis, mes sœurs, je ne peux pas, je viens d'arriver, mes missions sont organisées, il y a des foules qui attendent, je ne peux pas partir, ce n'est pas possible. Et je voyais cette femme tellement déterminée. Alors je suis allé dans ma chambre, j'ai pris ma Bible, et je lui ai fait lire un texte dans Actes 19 ou 11, je ne sais plus, où il est dit que l'apôtre Paul, on prenait des tissus qui avaient touché l'apôtre Paul, et on les mettait sur les malades, et les malades étaient guéris, et les démons même sortaient. J'ai dit, est-ce que vous croyez que c'est possible encore aujourd'hui? Elle dit, oui. Alors j'ai pris un mouchoir, un tissu que j'avais, j'ai prié sur ce mouchoir, disant au nom de Jésus-Christ, que quand la fille posera ce mouchoir sur le papa, au nom de Jésus-Christ, que la maladie quitte cet homme, mais si cette maladie est venue pour la mort, qu'il meure instantanément, afin de ne plus souffrir. J'ai prié comme ça. C'est une action, hein, de risque. De foi. La dame est partie avec son mouchoir, elle l'a donné à la fille qui a pris l'avion, qui est partie à Paris. Moi, j'ai fait ma mission, le temps a passé. 6 mois après, je retourne à Ouagadougou, chez le papa de Franck, chez Alain, Williamo. Et là, tout à coup, arrive toute une équipe. Cette dame était là, avec plein de gens. Elle me dit, frère Michel, vous vous rappelez? Je dis, oui, je me rappelle de vous, le mouchoir et tout. Alors, elle me dit, ben le monsieur, il est là. Alors, il était mais parfaitement guéri. Et sa fille dit, alors ma femme a pris la caméra et elle a filmé le témoignage. La fille a dit, quand j'ai posé le mouchoir sur mon papa, j'ai dit, au nom de Jésus, maintenant que la prière du serviteur de Dieu s'accomplisse. Ah, il ne meurt pas, eh ben c'est qu'il est guéri. Vous comprenez? Il ne meurt pas, alors c'est qu'il est guéri. Parce que j'avais prié, si cette maladie est venue pour la mort, qu'il meure tout de suite afin de ne plus souffrir, sinon guéris-le. Et elle a cru qu'il était guéri. Et cet homme s'est assis dans son lit. Son ventre s'est dégonflé au bout de quelques heures. Il a pu de nouveau marcher et il était complètement guéri. Le professeur qui le suivait est descendu avec lui à Ouagadougou. Il ne comprenait rien du tout. Dans les couloirs, il y a des infirmières africaines qui disaient « Oh, quelqu'un a apporté un gris-gris de blanc. » C'est pas un gris-gris. Les gris-gris, c'est une imitation de nos gestes de foi. Vous comprenez? C'est une différence. Ça dépend. Quel est l'esprit qui est derrière? Moi, c'était le Saint-Esprit de Jésus avec un enseignement de la parole de Dieu, de ce que l'apôtre Paul faisait. Amen. Alors, voyez-vous, les gestes de foi sont aussi une technique. Le 21 février, savez-vous ce qui se passe le 21 février à 5h du matin, 5h11 du matin? Tous les satanistes du monde vont se réunir en esprit. Et ils vont maudire l'Église. Comme ils le font à chaque changement de lune. Ils vont maudire l'Église. Ils vont maudire les présidents et les rois des pays. Ils vont maudire les chrétiens. Ils vont maudire vos familles. Tous les satanistes font ça à chaque changement de lune. Et les chrétiens, à 5h11, ils dorment. Il y a des techniques. Sachant que ces gens-là font du mal à cette heure-là, au nom de Jésus, nous serons debout. À genoux plutôt, et on prie pour contrer toutes ces mauvaises puissances au nom du Seigneur Jésus-Christ, et on va repousser nos ennemis derrière leurs portes. Amen. Ça, c'est une technique. Qui connaît cette technique? Peu. Parce que peu connaissent que nous avons le pouvoir de repousser nos ennemis derrière leurs portes. Ils croient que c'est une jolie phrase poétique. Non, c'est une technique de puissance. Il y a des moments spécifiques. Étudiez dans la Bible, vous verrez, vous trouverez toutes ces choses. Alors nous avons appris tout cela et nous mettons en pratique cette technique. Nous devons avoir une stratégie pour pouvoir repousser ces ennemis derrière leurs portes avec efficacité. Si vous priez n'importe quand, n'importe où, c'est déjà très bien. Il y en a qui prient même pas, hein. Mais priez avec stratégie, comme un bon soldat discipliné, suivant les ordres de l'Éternel, comme une sainte cohorte en marche, au nom du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, ça vaut mieux d'avoir une stratégie que d'avoir rien du tout. Ou des petites prières n'importe quand, un peu sauvageonnes. Vous voyez, mes frères et sœurs, de francs-tireurs. Mais avant l'action stratégique qui produit quelque chose dans le réel, il nous faut avoir un savoir, une connaissance. Dans notre monde intérieur, c'est-à-dire dans notre intelligence. Il faut nourrir notre cœur, notre intelligence avec ces choses qui viennent de la parole de Dieu. Mais les deux côtés sont nécessaires. Nourrir votre intelligence et ensuite agir avec stratégie selon l'intelligence que nous avons reçue de la part de Dieu. J'étais frappé par l'indice très bas d'enseignabilité que possèdent quelques chrétiens. J'étais vraiment frappé tout au long de mon ministère. Par exemple, ils veulent être enseignés. Alors je les enseigne, ils me posent des questions. Je leur démontre par les Écritures que nous avons à prendre autorité au nom de Jésus contre les puissances infernales, contre les puissances mauvaises qui sont dans les lieux célestes, etc. Au nom de Jésus, contre tous nos ennemis. Je leur enseigne que nous avons le pouvoir de les lier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je leur montre par la parole de Dieu que nous avons le pouvoir de les chasser dans les lieux arides au nom du Seigneur Jésus-Christ, de fermer la porte sur eux. Je leur démontre ça dans les Écritures. Et ensuite... Après qu'ils aient entendu l'enseignement, je les regarde passer à l'action. Ça m'est arrivé, souvent. Comment est-ce qu'ils agissent? Eh bien, je vais vous dire, ils prient Jésus de lier les démons et de chasser les démons. Est-ce que c'est parce que j'ai mal enseigné? Non. C'est parce qu'ils ne veulent pas changer leurs habitudes. Ils ne veulent pas changer leurs habitudes, c'est-à-dire que dans leur tête, dans leur conscience, ils voient dans la Bible que Jésus chassait les démons, donc c'était Jésus qui le faisait. À la limite, ça peut être quelques apôtres qui le font. Mais nous, non, on ne peut pas. En plus, on a un peu peur de s'adresser aux démons et de les lier, ces êtres déchus, méchants, n'est-ce pas, et de les envoyer dans les lieux de ténèbres. On a peur des représailles. Combien de chrétiens disent « Oh là là, on était bénis, mais qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? Les démons sont en colère. » Nous sommes vainqueurs plus que vainqueurs. C'est-à-dire que quand on est vainqueur, on demeure vainqueur au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une position de foi que nous manifestons avec un comportement fort. Alors ils disent « Seigneur Jésus, vas-y, fais-le, nous t'en prions. » Leur prière, elle est même tellement confuse. Ils disent « Seigneur Jésus, nous te prions au nom de Jésus de lier les démons, de les chasser, ces infâmes démons dans les lieux de ténèbres. Au nom de Jésus, amen. » Ils prient Jésus d'agir au nom de Jésus, ils rajoutent une couche de Jésus et ils disent « Amen ». Mais c'est n'importe quoi. Il n'y a aucune stratégie, il n'y a aucune technique. Ils n'écoutent même pas l'enseignement. Pourquoi ils n'écoutent pas l'enseignement? Pourquoi cet enseignement n'entre pas dans leur cœur profondément? Parce qu'ils ne le pratiquent pas. Et comme ils ne le pratiquent pas, eh ben, il ne leur arrive rien. Et après, ils sont étonnés. Ah, pourtant, hein, la Bible dit, crois, et tout est possible à celui qui croit. Non, mais Michel, c'est trop compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est vous qui êtes compliqué. Oh, c'est dur. Non, c'est vous qui êtes dur. C'est pas vrai. Un enfant peut comprendre ça. Je suis sûr, si je demande à un enfant, il comprend. Ça n'a aucun poids, mes frères et sœurs, sur la balance. Ça n'a aucun poids parce qu'il n'y a pas de cohérence. Vous croyez que Dieu fait les choses incohérentes? Vous croyez qu'un miracle, c'est quelque chose d'incohérent? Non. C'est un miracle pour nous, mais pas pour Dieu. Pour Dieu, rien n'est miraculeux. Pour Dieu, tout est facile, tout est possible. Et ça devient possible quand nous nous mettons à agir en cohérence avec Dieu et non pas en cohérence avec la façon du monde d'agir. C'est une façon du monde de demander à Jésus de faire ce que Jésus dit que nous devons faire. Oui. Vous voyez pourquoi je vous disais que pour être un bon disciple utile au Père, il nous faut avoir un bon indice d'enseignabilité, c'est-à-dire désirer, avoir soif de l'enseignement. Et ça, c'est un côté. La volonté d'accepter de changer, ça, c'est l'autre côté. Je vais vous dire une chose terrible, et je ne vais pas vous demander pardon de vous le dire, mais une personne qui écoute l'enseignement avec un indice d'enseignabilité à zéro et avec un désir de changer qui est aussi à zéro, eh bien, la Bible l'appelle une vierge folle. J'ai enlevé le mot vierge, je vais dire c'est une folle, voilà. C'est une folle. Une dingo. Ça choque, hein, parce que vierge folle, encore, ça fait très religieux. Mais de dire c'est une folle, on n'aime pas trop. Ben oui. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est Jésus lui-même qui le dit. Elle va écouter, elle va trouver ça super bien, et elle va avoir des émotions même pendant qu'elle l'entend, mais ensuite elle va sortir, et elle va être quoi? Eh bien, une folle motivée, mais une folle quand même. Motivée, mais une folle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est grave, ça donne un mauvais témoignage. Ça donne un mauvais témoignage. Voilà pourquoi les gens rigolent quand ils parlent au sujet des chrétiens. Ils ont raison de rigoler, on est rigolo. On a un mauvais témoignage, on manque de cohérence. Elle va être démotivée tout de suite à la première épreuve qui va passer. Elle va être démotivée, cette pauvre chrétienne, ce pauvre chrétien. Il va être démotivé. Alors il va revenir pour être encore enseigné, et encore, et encore, et encore, et encore. Mais comme elle ne veut surtout rien changer à sa façon d'agir, eh bien tout reste comme c'est, puis c'est tout. Parce qu'elle a peur de ce que ça pourrait occasionner comme changement dans sa vie. Alors elle se redégonfle très vite, et puis elle va se regonfler avec un petit coup d'enseignement. Elle va prendre sa dose, n'est-ce pas? Mais c'est vain. Se borner à écouter et ne pas agir en conséquence, en cohérence avec ce qu'on a appris, ça ne sert à rien. Autant faire la grâce matinée que de venir au culte dimanche matin. C'est dommage, mais c'est comme ça. Alors, on peut apprendre que tout est possible à celui qui croit et que ça ne marche pas, même si on l'a appris. Ce n'est pas la faute de Jésus, ce n'est pas Jésus qui a menti. n'est pas Jésus qui a menti. C'est qu'on a oublié quelque chose, nous. Il y a quelque chose qu'on n'a pas... Il y a quelque chose qu'on a oublié. On a oublié de mettre sur l'autre côté de la balance l'action qui va avec la pensée, l'action qui va avec la foi, l'action. Il y a des actes à poser. Il y a des stratégies à observer. Dans certains cas, c'est la prière. Dans d'autres cas, il y a la louange. Dans d'autres cas, il y a la prise d'autorité. Dans d'autres cas, il y a des gestes de foi appropriés. Un jour, il y a eu une prophétie, c'était dans une église de gitans, il y avait Payon qui était là. Et il y a eu une prophétie qui dit, « Mon enfant, tu t'es détourné de moi et voici aujourd'hui tu es malade, tu dis que je t'ai abandonné, mais c'est toi qui m'as abandonné, je t'appelais à mon service et tu ne fais rien. Repends-toi maintenant. » Puis la prophétie s'arrête. Et il y avait un frère qui faisait les chants et il commence à chanter « Alléluia, gloire à Jésus !» Et comme c'était moi l'orateur principal, j'étais vers le frère à la fin du chant, j'ai dit « Mes frères, je voudrais dire quelque chose, le Seigneur a parlé à quelqu'un ici. » Et il lui a dit « Voilà, il faut se repentir, est-ce que la personne est là dans la salle vraiment ?» Dieu a parlé, cette personne doit être là, où est cette personne? Et il y a un gros gaillard qui se lève, il dit « C'est moi !» Il a eu des grosses larmes. Je dis, approche-toi, mon frère. Je me tourne vers Payon, je lui dis, tu le connais? Il me dit, oui, je le connais. Je dis, c'est vrai son histoire? Il me dit, oui, c'est vrai. C'était un rétrograde. Il avait été appelé au service de Dieu, puis il a rétrogradé. Et il m'est venu une idée bizarre, qui n'est pas biblique. Ah, la belle chose. Parce que vous croyez-vous que d'aller toucher le bord du vêtement de Jésus, c'était une idée biblique? C'était une idée anti-biblique, parce qu'une femme qui avait une perte de sang, elle n'avait pas le droit de toucher un homme. Elle avait une idée anti-biblique, mais pourtant elle était guérie. Qu'est-ce que vous dites de ça? J'ai eu une idée anti-biblique. J'ai dit, donnez-moi cette chaise. Je mets la chaise. Je dis au garçon, prends la chaise et pose-la sur ta tête. Alors il la pose sur sa tête, il la tenait comme ça. La chaise sur la tête, il la tenait comme ça. Et je tourne autour. J'ai dit, regardez cet homme avec une chaise sur la tête. Comme il a l'air ridicule, dans une église, avec une chaise sur la tête, mais ça ne se fait pas. Le gaillard, il était balèze. Hein. Je me suis dit, si je pousse encore un peu, il va me casser la figure. Il faut que je fasse vite. Donc je tourne autour. Je dis, regardez comme c'est ridicule. Et au bout d'un moment, je me mets en face de lui, je dis, « Serre-toi de cette chaise comme il faut, au nom de Jésus !» Alors, il pose la chaise par terre et il s'assoit, mais il était un peu en colère. Il s'assoit. Je mets ma main sur lui et je dis, « Au nom de Jésus, comme tu t'es assis sur cette chaise, assieds-toi sur tes problèmes et repose-toi en Jésus !» Ça a fait un choc. Et il est retourné à sa place, c'était tout bizarre. 2 ans après, je le vois dans une convention, il me dit, « Michel, Michel !» Il avait maigri, il était bien. Il dit, tu te rappelles de moi? Je dis, non, je suis désolé. Un petit peu comme avec le frère tout à l'heure, je dis, excusez-moi, je ne me rappelle pas de vous. Il me dit, mais oui, l'homme à la chaise dans l'église que tu as dit qu'il fallait s'asseoir sur mes problèmes. Ah, je dis, c'est toi? Il me dit, oui, je suis à l'école biblique, je vais bientôt terminer mes études. Alléluia! Vous voyez, j'ai inventé un geste de foi en cohérence avec son problème. Il ne faut pas avoir peur d'inventer des gestes de foi. Les chrétiens vont toujours pratiquer le même geste de foi de l'imposition des mains. Mais c'est devenu une tradition, alors il n'y a plus rien qui se dégage de ça. Il faut inventer des nouveaux gestes de foi. Ce n'est pas interdit. La femme à la perte de sang, elle a inventé un geste de foi. Soyez inventifs aussi. Hein? Bon. Il y a comme dans certains cas, il faut l'abandon de certaines choses. Par exemple, ce qui vous mange trop de temps. Il faudra abandonner certaines choses pour vous consacrer davantage. Il va falloir des actions des fois risquées. Hein, comme marcher sur l'eau ou donner davantage que ce qu'on a, etc. Mais enfin bon, dans tous les cas, il faut une action. Par exemple, quand Nicolas Savadogo, mon interprète, est venu pour la première fois en France, Nicolas Savadogo, c'est un gros broussard, c'est vrai, hein, un gros broussard, il connaissait rien. Je me rappelle, la première fois, il me dit, Michel, est-ce que c'est vrai qu'en France, il y a des routes qui passent en dessus d'autres routes? Je dis, oui, pourquoi? Il me dit, ah bon? J'ai cru que ça, c'était un truc qu'on m'avait raconté, qui n'était pas vrai. Des routes qui passent au-dessus des autres routes. Maintenant, il y en a une à Ouagadougou qui passe en dessous, t'as vu? C'est bien. Alors, quand il est arrivé là, je lui ai enseigné de semer la dîme. Parce que lui, il donnait la dîme. Mais la Bible dit que ce qu'on donne avec la main droite, la main gauche doit l'ignorer. Ça veut dire que quand on donne, on ne doit pas s'attendre à recevoir quelque chose en retour. Alors j'ai dit, toi, tu donnes ta dîme, c'est pas bien. Il faut la semer. Le geste est le même, mais dans ta tête, dans ta pensée, dans ton savoir, c'est autre chose. Ta foi est différente, donc ton geste va être différent. Quand on sème, on s'attend à récolter quelque chose. Non? Bien sûr. Alors il a écouté attentivement l'enseignement et il a commencé à le faire. Puis quand il est arrivé en France, il a vu comment ça se passait et je lui ai enseigné les choses au sujet de l'investissement, comment on fait ici en France, comment ça marche, l'investissement. Alors, il a écouté, mais il n'a pas seulement dit « Ah, c'est bien !» Non, non, non. Quand il est rentré, il l'a fait. Il l'a fait. Il a commencé à acheter un petit machin. Il l'a revendu un peu plus cher, etc. Finalement, il a pu acheter un petit bout de terrain. Après, il l'a vendu plus cher. Après, il a regardé sur la carte de Ouagadougou dans quel sens les constructions se faisaient. Est-ce que ça partait au sud? Est-ce que ça partait au nord? Il a regardé. Et comme il a vu que ça partait au nord, il a dit, je vais acheter quelque chose au nord, mais plus loin que normal. Et 4 ans après, ce terrain-là, la ville avait atteint le terrain. Et le terrain valait beaucoup plus cher. Il l'a revendu. Il a pu acheter une maison en plein Ouagadougou. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Il est intelligent parce qu'avec son savoir, il fait quelque chose. C'est la même chose pour les choses spirituelles. Avec notre savoir, avec ce qu'on apprend, il faut faire quelque chose. Maintenant, il ne donne plus le dixième de son revenu, il le sème. Il sème le dixième de son revenu. Et il fait ce que je lui ai enseigné, c'est-à-dire il divise ce qui reste après avoir semé pour l'œuvre de Dieu, le dixième de, ce qu'il a, de son revenu. Il partage en 3 le reste, il paye ce qui lui sert à vivre, lui et sa famille. Ensuite, il garde pour pouvoir s'amuser aussi, parce qu'il ne faut pas que travailler dans la vie. Et puis le dernier tiers, il s'en sert pour investir. Pour investir. Il gagne de plus en plus. Il peut donc semer de plus en plus et récolter de plus en plus. Là, il vient d'acheter, je ne sais pas combien, de milliers d'hectares, je crois 5 000 hectares. Maintenant, il m'a dit, Michel, on n'a plus besoin d'acheter du mil et du riz pour donner aux pauvres dans les villages. Alors, ça ne sert à plus rien de m'envoyer de l'argent pour ça parce qu'on a le terrain. Je dis, oui, mais il faut de l'engrais. Il me dit, ça, c'est vrai. Je dis, alors, je vais te payer l'engrais. Waouh, super! Il était content. Donc, maintenant, on n'envoie plus du riz et du mil, on envoie de l'engrais. Mais ça, c'est de l'intelligence. On apprend et on fait. C'est la même chose avec les choses surnaturelles. C'est la même chose avec tout ce que vous voulez qui change réellement dans votre vie. Tout, 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 toutes choses sont possibles. Si tu crois ce que je te dis et que tu le vis. Nicolas, il a un indice d'enseignabilité 10 sur 10. Et il a un indice de volonté de changement de 10 sur 10. Il déteste la pauvreté. C'est pas rigolo du tout, la pauvreté. Alors il fait tout pour ne pas être pauvre et pour pouvoir enrichir encore d'autres. Et je vous garantis, il donne du travail maintenant. Il a plein de gens qui travaillent et c'est magnifique ce qu'il fait là-bas. Et je suis content que Alain, Priscille et Damien le voient aussi là-bas maintenant. Il y a d'autres, Philippe, Marie-Claire, Isabelle, beaucoup d'autres l'ont vu aussi. Mais d'aller voir là-bas ce qu'il fait, mais c'est inspirant. C'est inspirant quand on pense qu'il y a encore 10 ans, il était rien. Il gardait les chèvres de son père. Il n'y avait même pas un vélo, même pas de chaussures. Mais il a appris et il a fait avec ce qu'il a appris. Il a vu ça dans la Bible et il a vu aussi l'abondance au château, ça l'a inspiré. Et puis, il a fait. Il a accepté le changement, accepté de faire ce qu'il fallait, sachant que ça allait changer tout dans sa vie, sachant que ça allait changer son comportement. Je me rappelle la première fois, je l'emmène aux Champs-Élysées, la première fois qu'il est arrivé en France et je l'ai emmené, à l'époque c'était le pub Renault, je ne sais pas si ça existe toujours le pub Renault. Oui, ça existe. Et là-bas, il y avait des voitures, des prototypes, des voitures absolument incroyables qui rouleront jamais sur la route, mais c'est des voitures, ils se font plaisir, quoi. Ils font des voitures fantastiques. Ils regardent ça, ils disent, c'est scandaleux, c'est honteux, des trucs pareils. Jamais je veux une chose comme ça. Je dis, Nicolas, arrête. Il me dit, quoi? Je dis, si tu insultes les gloires, tu auras jamais, jamais, jamais la possibilité de grandir. Il me dit, comment ça insulter les gloires? C'est pas une gloire, c'est une bagnole de riche. Je dis, attends. Derrière la bagnole de riche, il y a un méchant démon qui s'appelle Mammon. Si tu l'insultes, tu risques pas de l'avoir dans ta poche un jour pour t'en servir. Il a compris. Maintenant, il a la même voiture que le président du pays du Burkina Faso. Vous voyez? Quand l'indice, il a accepté de changer, de reconnaître qu'il avait tort, de reconnaître qu'il est, il est... C'est un homme humble. C'est ça, être humble. C'est pas dire... C'est pas ça. Vous voyez Nicolas, vous trouvez qu'il a une allure humble quand il rentre quelque part? Avec son gros bide, là, on arrive. Oh, il n'a pas l'air humble, mais il est humble. Ça, c'est quelque chose, hein. C'est pas une apparence d'humilité que Dieu cherche, une réelle humilité. Savez-vous, la majorité des gens ne veulent pas réellement que les choses changent dans leur vie. Ils veulent pas réellement. Ils aiment ce que Sylvie Vartan appelle cette douce misère et que Jésus appelle la tiédeur. Il faut, un, savoir ce que vous voulez. Deux, écouter les bonnes personnes, c'est-à-dire les gens qui vivent ce qu'ils disent. Jésus, il faut l'écouter. Les serviteurs de Dieu qui réussissent, il faut les écouter. Et puis, vous savez, depuis que je suis chrétien, les seuls dont j'ai accepté l'enseignement sur le salut et la guérison, c'est Raphaël, Osborne, Vikram Seth, Oral Roberts, William Branham. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait leur preuve. Point final. Je m'en fiche de ce que disent les ploucs qui font rien dans leur vie que de critiquer. Moi, je m'inspire d'hommes qui réussissent, de femmes qui réussissent. Et voilà pourquoi... Gloire à Dieu, ça marche. Amen. Amen. Il ne faut pas qu'enseigner. Ils ne font pas qu'enseigner, ces gens. Ils prouvent par leurs actes que ce qu'ils enseignent est vrai. C'est ça que j'aime. C'est ça que Jésus aime. Et il faut que vous soyez cette sorte de personne. Donc, un, savoir ce que vous voulez. Deux, écouter les bonnes personnes. Trois, entretenir votre indice d'enseignabilité. Quatre, accepter que les choses changent. Cinq, agir. Dieu se cherche des disciples. Alors le mot disciple, Dieu cherche des élèves. Des élèves. C'est par cette sorte de foi pensée et agissante que Noé a construit son arche sans vaciller. C'est par cette sorte de foi agissante que Moïse a guidé les enfants d'Israël hors d'Égypte à travers la mer Rouge sans vaciller. C'est par cette sorte de foi agissante et pensée et agissante que Josué a fait s'écrouler les murs de Jéricho. Tous ces gens avaient des oreilles pour entendre et des mains pour agir. La foi, c'est le principe du pouvoir, de pouvoir. Tout est possible à celui qui croit. Tu peux, c'est possible. C'est la foi, c'est la clé du pouvoir. Ceux qui n'ont pas la foi, mes frères et sœurs, comme cela, je dis... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient à toutes ces choses, mais qui ne vivent pas, qui ne pratiquent pas. Tous ces gens-là, ils vivent seulement au niveau du libre arbitre. C'est déjà bien. C'est déjà bien pour eux. C'est super pour eux. C'est ça. C'est déjà ça. C'est bon. C'est bien. Mais notre foi doit être basée, l'apôtre Paul nous dit, sur la puissance de Dieu et pas sur la sagesse humaine. C'est autre chose. On trouve ça dans 1 Corinthiens 2, 5. Notre foi doit être basée sur la puissance de Dieu et non sur la sagesse humaine. Sans la foi, on piétine à chaque croisement de notre vie. On est là, on hésite, on ne sait pas. Il faut faire ça ou il faut faire ça. Comment je vais faire? J'ai trop de choix dans ma vie, je ne sais pas quoi choisir. Mais fonce, n'importe où, fais-le. Ah bon, Michel, mais c'est pas sage. La sagesse humaine, c'est pas ça qui marche. Crois dans la puissance de Dieu. S'il y a plusieurs portes qui s'ouvrent devant toi, tu dis, au nom de Jésus, tiens, je prends celle-là. Et puis tu vas marcher. Et puis si ce n'est pas la bonne voie, Dieu va te diriger ailleurs. Amen. C'est ce que les apôtres ont fait. Ils voulaient aller je ne sais plus où, puis le Saint-Esprit les a empêchés, puis ils sont partis ailleurs, c'est tout. Mais si tu ne bouges pas, si tu n'agis pas, comment veux-tu que Dieu te conduise, te dirige, te guide? Si tu es au volant de ta voiture et que tu tournes ton volant à gauche, à droite, mais que ta voiture n'avance pas, elle ne va pas aller à gauche ni à droite, elle ne va pas avancer, c'est la même chose. Il faut, quand tu as plusieurs choix, choisis n'importe quoi, prends n'importe quoi, ce qui te semble le plus intelligent, le mieux. Ce qui glorifie le plus Dieu, ce qui va faire le plus de bien aux gens, ce qui va te donner une plus grande satisfaction à toi personnellement, et fais-le. Et si ce n'est pas ça la volonté de Dieu, il te guidera pour que tu fasses l'autre. Faites confiance dans la puissance de Dieu. La foi, elle est basée sur la puissance de Dieu et non pas sur ta sagesse humaine. Amen. Gloire à Dieu. Alors Jésus nous lance une invitation. Parce que sinon... Si on n'obéit pas, si on ne rentre pas là-dedans, on gâche un temps précieux, sans avancer. Alors cette invitation, c'est suivez-moi, en prenant mon fardeau, qui est facile, qui est léger, qui est aisé. Matthieu 11, 30, le fardeau de la foi active. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on croit seulement, c'est quelque chose qu'on vit. C'est quelque chose qu'on vit. Alors, marchons à la suite de Jésus, en renonçant à nous-mêmes. C'est ça, porter sa croix, c'est aller à notre propre mort pour que ce soit lui qui vive et non pas nous. Et qualifions-nous. On doit se qualifier pour entrer dans sa vigne. Que Dieu soit béni. Merci Jésus de bénir mes frères et sœurs, de leur permettre de comprendre comment ils peuvent adapter cet enseignement à la difficulté qui est la leur en ce moment. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec cet enseignement? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pratiquement avec cet enseignement? Quelle est la stratégie qu'ils vont opter laquelle ils vont choisir? Seigneur, je te prie que réellement les choses ne demeurent plus les mêmes pour eux, mais qu'ils optent, qu'ils adaptent leur vie à cet enseignement et qu'ils agissent avec une stratégie, avec une technique, avec ce qu'ils ont compris pour pouvoir sortir de cette difficulté qui est la leur à eux, que j'ignore. Je ne sais pas les difficultés de tous ceux qui m'écoutent en ce moment, mais Seigneur, toi tu les connais et tu leur as inspiré ce matin par cet enseignement quelque chose qu'ils vont pouvoir faire. Et je te remercie pour ça, Jésus. Et je te prie que cela devienne une grande réalité et que cela puisse être transformé en bénédiction et qui rende toute la gloire à ton nom, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.